a dit, maintenant qu'on a du temps, on pourrait peut-être partir une semaine à la mer, en Bretagne.
Attends, est-ce que tu es vraiment sûr que là-bas, on puisse capter la JT du local?
Et c'est sur l'autre radio.
Voilà, la JT du local commence ce mardi ensemble. J'ai les mains un peu froides. Et vous, êtes-vous des adeptes de la bouillotte? Est-ce que le chauffage est déjà allumé au bureau pour vous? Peut-être qu'il faut attendre encore, je ne sais pas. D'ailleurs, qui prend vraiment ces décisions? Je ne sais pas non plus. Et je crois d'ailleurs qu'en ce mardi, je m'égare un peu. Venons-en au sujet du jour et même à l'invité du jour que j'ai le plaisir d'avoir avec moi au téléphone. Il s'agit de Stéphanie Montebrand. Bonjour Stéphanie, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Alors vous êtes coordinatrice de la maison des aidants en Mayenne et donc ensemble on parlera du rôle d'aidant, des particularités et du quotidien d'un aidant ainsi que de l'événement qui a lieu du grand forum qui aura lieu à l'espace Colmont à Goron le 10 octobre de 9h30 à 17h. On viendra là-dessus dans quelques instants, on continuera l'émission avec la lecture de l'auditeur. Et puis ensuite, le reportage du jour, c'est un reportage en deux épisodes. Le premier est aujourd'hui sur la question des AESH dans notre pays et particulièrement en Mayenne. On termine cette émission avec un chroniqueur qu'on aime beaucoup retrouver. Vous le connaissez bien, il s'agit de Donatien. Mais alors, je vous le disais, on est en bonne compagnie aujourd'hui puisqu'on est avec Stéphanie Montebrand, coordinatrice de la Maison des aidants en Mayenne. Peut-être Stéphanie, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter la Maison des aidants et ses missions?
Oui, la Maison des aidants est une plateforme de répit et d'accompagnement des aidants sur le territoire du Nord Mayenne. Elle est portée par l'EHPAD de la Providence à Mayenne et elle permet d'apporter du soutien aux aidants qui sont nombreux, les prévenir du risque d'épuisement et d'isolement et les soutenir dans l'accompagnement de leurs proches. Nos missions sont des missions de soutien et d'écoute, d'information, de formation des aidants, et aussi de mettre à disposition une offre de répit à proximité de chez eux pour les soulager en accompagnant l'aidant, l'aider à domicile ou sur des lieux dédiés.
Quand on parle d'aidant, est-ce qu'il y a un profil particulier des personnes que vous pouvez accompagner? L'aidant, je crois que ça regroupe finalement des personnes qui accompagnent, qui ont des proches, qui peuvent avoir des pathologies finalement plutôt très différentes.
Oui, la définition de l'aidant, elle n'est pas très connue. Hein. Deux tiers ne se considèrent pas en tant qu'aidant. On en compte à peu près 11 millions de proches aidants en France. La définition, elle est celle-là. C'est une personne qui n'est pas professionnelle, qui vient en aide à un proche en perte d'autonomie, qui présente une dépendance, quelle que soit la cause. Hein, ça peut être une maladie, un handicap ou lié à l'âge. Ça peut être un membre de la famille, un conjoint, mais pas seulement. Ça peut être aussi un ami, un voisin qui est proche de la personne et qui va effectuer des gestes de la vie quotidienne de façon régulière et fréquente. Ça, c'est la définition de l'aidant. Il n'est pas forcément cohabitant dans le logement de l'aidé, mais c'est vraiment la définition de l'aidant. Et beaucoup ne considèrent pas ce statut d'aidant alors qu'ils le sont.
Justement, ça m'intéresse beaucoup ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire que finalement, on parle peut-être très peu de ce sujet, de ce statut-là, et on n'a pas conscience, vous parliez tout à l'heure de risque d'épuisement, c'est-à-dire que finalement, on est dans une situation où on est un gros soutien pour une personne en situation de fragilité ou de vulnérabilité, et c'est quelque chose de pesant dont on n'a pas forcément conscience nous-mêmes.
Non, ça arrive de façon assez insidieuse, hein. C'est un petit accompagnement qui grandit au fur et à mesure de l'évolution de la maladie et qui prend de plus en plus de temps dans le quotidien. Les aidants n'ont pas forcément cette prise de recul qui leur permettrait de se représenter en tant qu'aidant. Donc ils le font de façon assez ordinaire, par devoir, par obligation. Et ils ne pensent à eux que quand leur situation et leur épuisement est déjà très important.
Justement, on parle du quotidien des aidants, de situations d'épuisement. J'imagine qu'il est parfois complexe pour un aidant de concilier notamment la vie professionnelle et personnelle.
Oui, il y a 58% des aidants qui sont en activité professionnelle. Hein. C'est assez énorme. Nous, la maison des aidants, on est plutôt ciblé sur les proches qui sont touchés par la maladie neurodégénérative, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, et de plus de 60 ans. Donc, on ne se retrouve pas avec cette population d'aidants en situation professionnelle, à moins que ce soit des enfants, bien sûr, mais la majorité sont retraités.
Et alors, quel type de ressources est-ce que vous proposez justement en soutien aux aidants, peut-être ?
Alors, les aidants, on leur apporte de l'écoute et du soutien hein, autant que nécessaire. Ils savent, quand ils connaissent la maison des aidants, ils viennent frapper à notre porte, nous appeler et recueillir l'information qu'ils recherchent. Ils sont beaucoup aussi en recherche de formation, donc on propose aussi des formations en partenariat, par exemple, actuellement avec France Alzheimer. Donc, il y a une formation en cours. Puis, les dispositifs de répit de proximité, eh bien, ça peut être différents dispositifs des soignants qui vont aller au domicile du couple aidant aidé pour vraiment évaluer la situation, repérer les freins, les accompagner personnellement vers les autres dispositifs de répit pour leur permettre de cheminer avec eux et de mieux les accompagner. Il existe aussi les haltes-répit, la halte-répit de Mayenne, la halte-répit de Javron permet aussi d'accompagner les aidés cette fois. Donc ce sont des professionnels qui accompagnent sur une demi-journée, deux demi-journées, les aidés sur des temps d'animation. Et ça permet de libérer les proches durant cet après-midi-là. On peut aussi proposer des temps d'accompagnement pour les aidants à titre d'atelier bien-être une fois par mois. Sont mis à disposition des professionnels du bien-être pour les aidants. Des cafés des aidants, ce sont des groupes de parole également, ouverts une fois par mois pour les aidants. Ensuite, il y a d'autres dispositifs qui sont proposés en fonction des besoins et des attentes de chacun, comme du répit à domicile. Là, c'est un dispositif qui permet d'accompagner l'aidant et l'aider à domicile.
Ce que je peux percevoir dans notamment les différentes choses que vous proposez, c'est que finalement l'aidant a beaucoup besoin d'échanger et puis de repos.
Oui. Il a besoin d'échanger, il a besoin de verbaliser. Il se trouve malgré tout, même s'il y a des plans d'accompagnement et des aides à domicile, assez isolé du fait de la maladie et de l'accompagnement qui est très important à domicile. Donc son temps est compté, ses ressources aussi. Et c'est cette recherche d'information, quand il la ressent, elle est très importante. Ça permet pour lui de mieux accompagner et d'accompagner durablement en maintenant suffisamment de ressources à l'aidant pour le quotidien.
Et alors justement Stéphanie, un forum aura lieu à l'espace Colmont à Goron le 10 octobre de 9h30 à 17h. Je le disais, c'est un forum finalement qui permet à différents exposants de communiquer sur leurs propositions et leur soutien. Ça peut répondre à nos questions quand on se retrouve dans cette situation-là.
Oui, tout à fait. Donc là, c'est un forum sur le territoire du Bocage et de l'Hernier. Qui va permettre à tous les acteurs du territoire du Bocage et de l'Hernier d'être à disposition du public, de présenter leurs actions, leur travail, de discuter et d'échanger avec ce public. Donc ça, de 9h30 jusqu'à 14h, ces acteurs seront disponibles et pourront répondre aux besoins et aux attentes des gens en questionnement par rapport à leur propre situation. Il y aura aussi des ateliers d'animation, musicothérapie, socio-esthétique, art-thérapie, qui va permettre aux gens de tester ce que l'on peut proposer à des aidés à domicile ou en structure. Et puis à 11h, une table ronde, un échange sera proposé pour comprendre et être accompagné dans l'évolution de la maladie. Donc ça, c'est des thèmes très présent, qu'on rencontre quotidiennement. Comment accompagner mon proche dans l'évolution de la maladie? Est-ce que je réponds bien? Est-ce que je me questionne suffisamment, etc. Donc un médecin, une neuropsychologue et une soignante seront là pour répondre aux questionnements des aidants qui seront sur place et de leurs proches. Et sur l'après-midi, une pièce de théâtre très ludique, informative, qui s'appelle « Tous ses dents », qui mettra en scène une situation d'aidance à domicile et présentera par là même les dispositifs d'accompagnement que on peut avoir sur le territoire du Bocage et de l'Herne. Donc c'est une journée très chargée de 9h30 à 17h où il y aura beaucoup de présentations d'activités, d'accompagnement directement avec possibilité de les tester sur place.
Donc un temps idéal finalement pour prendre contact, pour vous rencontrer directement et rencontrer à différents acteurs du territoire qui agissent dans ce sens. Il est également possible de vous contacter en dehors de ce temps-là si jamais par exemple on n'est pas disponible le 10 octobre, Stéphanie.
Oui, bien sûr. Je peux donner mon numéro.
Tout à fait. Oui, allez-y.
Vous pouvez, j'ai un numéro et la maison des aidants, elle se situe à la Providence, à l'EHPAD de la Providence de Mayenne, et vous pouvez m'appeler sur mon numéro sans difficulté et on pourra échanger sur votre situation, répondre à vos besoins et rencontrer votre proche.
Et pour terminer, Stéphanie, je me pose la question, est-ce que l'on peut devenir également bénévole et apporter notre soutien aux aidants, nous aussi ?
Oui, oui, on recherche toujours des bénévoles pour nous accompagner dans toutes nos actions. Et c'est toujours très, très important cette part des bénévoles parce qu'elle complète en fait et elle permet d'être au plus près de chacun. Chaque aidant, chaque aidé a besoin d'un accompagnement personnalisé et on a toujours besoin de davantage de personnel, de professionnels, de bénévoles pour accompagner au mieux ces personnes dans le besoin.
Et donc, je le rappelle, le forum aura lieu à l'espace Colmont à Goron le 10 octobre de 9h30 à 17h. Et il est également, comme on le disait, possible de vous contacter, Stéphanie Montebrand, car vous êtes coordinatrice de la Maison des aidants en Mayenne. Et donc, on retrouve vos coordonnées directement sur le site internet.
C'est ça.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Stéphanie. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces informations. Dans quelques instants, on écoute notre reportage du jour qui aborde la question des AESH. Mais avant, on écoute Tram House. C'est un groupe que vous pourrez découvrir mercredi à 20h sur la scène du 6x4. On leur prête une énergie incomparable en live et c'est pas mal du tout. C'est en milieu de semaine pour que l'auditeur de l'autre radio ne passe pas à côté. Sachez une chose, c'est qu'ils sont à même de transformer des salles de concert en masse transpirante, une masse qui sera alors portée par leurs influences hypnotiques post-punk. Oui, 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 rien que ça, on écoute Once Again. comme chaque rentrée scolaire, un point est fait par l'inspection académique, mais aussi par les syndicats de l'éducation nationale. Et pour cette rentrée scolaire et suite aux années qui viennent de s'écouler, suite également aux réformes de l'éducation nationale prônant l'inclusion au sein des classes, j'ai eu envie de voir sur ce point précis comment s'est passée cette rentrée et découvrir un peu plus avec vous le rôle et les conditions de travail des AESH, dont on entend les revendications depuis quand même quelques années maintenant. C'est un reportage en deux épisodes, on découvre le premier ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Brigitte Lacoste, inspectrice académique de la Mayenne, nous parler de cette question de l'accueil des enfants en situation de handicap, en sachant qu'un grand nombre d'enfants en Mayenne est en attente de pouvoir être accueillis en centre médical spécialisé et qu'un certain nombre d'élèves actuellement ne bénéficient pas du temps d'accompagnement d'une AESH nécessaire au sein des classes. C'est la première partie de ce sujet. Écoutez.
La question de l'accompagnement des élèves en situation de handicap est une question qui nous mobilise. Nous souhaitons entamer un travail avec la maison départementale de l'autonomie et l'ARS pour essayer de voir où sont les leviers. Aujourd'hui, il y a effectivement des enfants qui ne bénéficient pas de la totalité de l'accompagnement humain qui leur est notifié. Nous procédons à quelques recrutements encore sur les supports qui ne sont pas encore pourvus. Donc là, les derniers recrutements sont en cours et nous faisons vraiment le maximum pour faire en sorte que l'inclusion scolaire soit la meilleure possible pour ces enfants. Ça ne dépend pas que du ministère de l'Éducation nationale parce que ce sont des enfants qui ont aussi besoin de soins. Donc c'est vraiment un travail interministériel entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale. Et le partenaire aussi qui est évidemment incontournable pour nous, c'est le conseil départemental avec la maison départementale de l'autonomie. Donc nous travaillons ensemble pour tenter vraiment de trouver le meilleur équilibre pour l'accueil des élèves. Vous le savez, la Mayenne est un département 100% inclusif, ça nous tient à cœur, donc nous faisons vraiment tout ce que nous pouvons pour trouver tous les leviers et améliorer les situations qui méritent d'être améliorées. Effectivement, il y a des enfants qui auraient besoin d'une prise en charge médico-sociale, mais effectivement, il y a une difficulté à répondre à l'ensemble des besoins des enfants du département. Donc ces enfants sont parfois dans nos établissements avec soutien d'un dispositif ULIS parfois, pas toujours, avec un AESH individuel souvent. Et donc effectivement, l'équilibre, il doit se rechercher à plusieurs, en fait, avec le ministère de la Santé, qui donc est responsable du médico-social et ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, puisque nous accueillons les élèves et c'est bien sûr notre devoir. Et c'est vraiment un travail qu'on doit mener ensemble.
Steph Godin, secrétaire départemental du SNUDIFO 53. La situation est dramatique. La ministre démissionnaire Belloubet annonçait en conférence de rentrée 24 000 élèves qui étaient en attente d'une place en établissement spécialisé. En Mayenne, on est à 400 élèves qui sont en attente d'une place en IME, en ITEP, en service de soins, CESAD, en SECPA, si on prend les chiffres dans leur globalité, en IME, ITEP, voilà, on approche les 200 élèves en attente d'une place. C'est la situation est catastrophique et elle est surtout honteuse parce que les conséquences sont parfois dramatiques pour les élèves, pour leurs familles et puis pour les personnels qui pensent porter une responsabilité, qui culpabilisent. La culpabilisation, on en a assez, quoi. On a l'habitude, avec ce gouvernement, avec ces gouvernements, des contre-feux. L'uniforme, le portable à l'école, le harcèlement, je ne dis pas que ce sont des non-sujets. Mais derrière ça, on a un gouvernement qui reste totalement sourd aux revendications. On va pouvoir y répondre avec les créations de postes, en donnant les moyens au personnel de pouvoir se pencher sur ce fléau. Avec une médecine scolaire, avec des psychologues scolaires, avec un RASED complet, avec des effectifs allégés pour pouvoir, nous, enseignants, nous occuper de nos élèves et d'être au plus près d'eux et de leurs besoins, quoi.
Je suis Muriel Lageste, AESH à l'école Jules Ferry de Saint-Pierre-la-Cour. AESH depuis 13 ans, c'est ma 13e rentrée scolaire. Et donc représentante FO pour la Mayenne. Et les missions qui nous sont confiées sont de plus en plus larges et surtout avec des enfants, puisqu'on parle d'inclusion scolaire, pour respecter la loi de 2005 d'accueillir les enfants à l'école. Il y a de plus en plus d'enfants qui maintenant sont accueillis, puisque notamment il y a de moins en moins d'établissements spécialisés, ce qu'on appelle les IME, les ITEP, entre autres. Et donc des enfants qui avaient des soins nécessaires, des besoins particuliers, il y a de moins en moins de places dans ces établissements-là. Et donc on les accueille de plus en plus dans les établissements ordinaires, dans les écoles, j'avais envie de dire classiques. Donc effectivement, on est amené à avoir des profils d'enfants qui sont de plus en plus variés, j'ai presque envie de dire difficiles quand même à prendre en charge. Moi, ce que j'ai connu déjà au tout début, il y a 13 ans, c'était plutôt des élèves en difficulté réelle d'apprentissage. Tout ce qu'on appelle les enfants dyslexiques, dyscalculiques, tous les dysorthographiques, etc. Où là, il fallait vraiment être plus là par rapport aux difficultés d'apprentissage des enfants. Bon, il y a aussi toujours ça, mais en plus, maintenant, de plus en plus, effectivement, des enfants dans les écoles où c'est plus des problèmes de comportement, de savoir être avec les autres, comment se comporter, et ce qui, effectivement, leur crée des problèmes d'apprentissage. On est sur les deux volets, mais on se confronte, j'ai envie de dire, nous, en tant qu'AESH, et avec les enseignants, évidemment, à ce type de profil d'élèves. Tout en sachant qu'il n'y a pas une vraie formation pour les AESH. Moi, j'ai connu rien comme formation, c'était il y a 13 ans. Alors, est-ce que c'était parce que j'étais enseignante? Je ne pense pas. Du jour au lendemain, on m'a demandé d'aller dans tel collège jouer ce rôle d'accompagner les enfants. Alors maintenant, depuis quelques années, il y a 60 heures en présentiel ou par visio d'espèces de formation, j'ai envie de dire espèces de formation ou de pseudo-formation, parce que de toute façon, on ne peut pas en 60 heures aborder tous les problèmes, toutes les difficultés, parler de... je ne sais pas, des handicaps physiques, du moteur, mental, de l'autisme. Enfin, voilà. Et chaque enfant étant effectivement particulier, c'est sur le terrain qu'on est confronté et on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on est, avec ce qu'on sait, avec ce qu'on ressent. Le profil des enfants en classe maintenant a changé. Donc, ça demande d'ailleurs de notre part une grande adaptabilité. Et puis, j'ai envie de dire, parfois, on fait comme on peut. On fait au mieux, en partenariat avec les enseignants, quoi.
Notre administration, notre employeur a opéré un tour de passe-passe via ce qu'on appelle la mutualisation des moyens, ce qui a été mis en place partout en France, ce qu'on appelle les PIAL, hein, qui permet à notre employeur de diluer l'accompagnement des élèves. Je prends un exemple, un élève est notifié par la maison départementale de l'autonomie pour un accompagnement plein de 24 heures sur sa présence scolaire. L'administration va estimer qu'elle n'a pas les moyens, parce qu'elle n'a pas suffisamment d'AESH et qu'elle n'arrive pas à recruter, hein, en lien avec la précarité du métier. Et donc, elle va dire, non, pour cet élève, on va mettre 12 heures, mais les 12 autres heures, on va les mettre pour un autre élève. Et ce qui arrive à des situations assez hallucinantes, où on a des AESH qui accompagnent 1, 2, 3, 4, voire jusqu'à 10 élèves, sur des établissements parfois différents, et des élèves qui sont privés de cet accompagnement, qui est nécessaire pour eux, pour pouvoir suivre la classe et les apprentissages, qu'effectivement, on a l'accompagnement qui est dilué. Et l'employeur affirme que tous les élèves qui ont besoin d'une AESH ont un accompagnant, sauf qu'en réalité, c'est faux. Ils n'ont pas l'accompagnement à laquelle ils ont droit, en fait, ces élèves. Ça place, en plus, les AESH dans des situations très difficiles. Je le disais, l'accompagnement est un métier en soi, il y a parfois des conditions difficiles dans l'exercice de l'accompagnement, mais aussi le fait d'être déplacé d'un établissement à l'autre pour aller accompagner 3 heures ici, 6 heures là-bas, etc., dans le public et dans le privé, parce qu'il y a une mutualisation aussi à ce niveau-là, ce qui est assez ubuesque, et dans le premier et dans le second degré. On a des AESH qui exercent parfois en école et en collège. C'est un métier à part entière, les AESH devraient pouvoir aussi être spécialisés dans l'accompagnement. Tous les handicaps ne sont pas les mêmes, et donc tous les accompagnements ne sont pas les mêmes.
Dans ma vie, le centre du monde, c'est l'amour.
Mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois.
J'ai fait semblant plein de fois de discuter avec des gens en disant « Ouais, putain, j'imagine quand même ça, c'est... » Mais en fait, j'ai pas...
Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours.
On n'a pas trouvé un nom tout de suite à cette séquence. Ce moment est simple et beau, mais c'est la lecture de l'auditeur.
Vous écoutez l'agité du local.
Là, je me répète un peu chaque semaine, mais je dirais que ça arrête le temps, un instant, c'est entre la confidence et le simple partage. C'est une séquence que je trouve précieuse, c'est la lecture de l'auditeur. Et oui, et avec moi aujourd'hui, Adèle. Bonjour Adèle, merci d'être avec moi.
Bonjour, merci Margot. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit poème voilà, sur le vitrail que j'ai composé il y a quelques années.
Okay, on t'écoute, vas-y.
La tête en éveil, des rêves sur le vitrail, tableau bariolé, d'orgueil et d'amertume, marmonnant sans répit d'une voix gutturale. C'est comme si un feu s'allumait dans la brume. Tableau bariolé d'orgueil et d'amertume d'une humanité qui s'est déviée des rails. C'est comme si un feu s'allumait dans la brume. Des visages et des mots qui toujours nous travaillent. D'une humanité qui sait dévier des rails, errant sans raison au milieu du bitume. Les visages et les mots qui toujours nous travaillent font des va et des viens comme un étang d'écume. Errant sans raison au milieu du bitume, ma liberté s'arrête et les champs de bataille font des va et des viens comme un étang d'écume, ravageur de tendresse et de dragon d'écaille. Je vous surprendrai pas en vous disant que j'ai écrit ce texte pendant la pandémie, comme beaucoup. Il n'était pas vraiment fait pour être écouté à la base. Mais bon, j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui, comme ça vous pouvez l'oublier aussitôt, c'est pas plus mal. Il n'y a aucun message derrière, aucun sens caché en fait. C'est comme quand on raconte son rêve à quelqu'un, de l'extérieur ça peut paraître un peu idiot, mais il faut juste se laisser embarquer par la musique et un peu par la voix aussi, sans forcément de conditions.
Merci beaucoup Adèle. En tout cas, je ne pense pas qu'on l'oubliera aussitôt. En tout cas, pour moi, ce ne sera pas le cas. Merci pour ce moment, c'était très beau.
Merci beaucoup.
Alors, Donatien, lui aussi, joue avec les mots. Et les mots, on les aime particulièrement le mardi dans cette émission. Si vous ne le connaissez pas, Donatien, c'est le chroniqueur littéraire peut-être, ou le conteur. Enfin, ces mots, ne suffiraient pas à le définir. Alors, simplement, je vous propose de l'écouter.
Est-ce parce qu'elle rime avec hirondelle, étincelle ou dentelle que Donatien affectionne la passerelle ? Allez savoir. Avec quoi rime encore le mot passerelle ? Avec les Bartavelles, rapportés par Marcel Pagnol, ce duo de perdrix chassé dans les collines de Provence à la gloire de son père. Avec les tourterelles qui roucoulent au matin pour chanter le réveil du soleil et le soir quand la température estivale, voire caniculaire, fait place à une douce fraîcheur bienfaisante. Les enfants qui ont vécu à Laval n'ont pas oublié la fameuse passerelle qui les menait accompagnés par leur père jusqu'au stade Francis Lebasser rejoindre leurs idoles. Aujourd'hui, c'est encore un plaisir d'emprunter cette même passerelle, refaite à neuf, pour enjamber les voies du chemin de fer qui relie Paris au Finistère. Né à Angers, Donatien empruntait la passerelle de la gare Saint-Lô pour rejoindre son école et arriver à l'heure. Qu'à l'époque, les marches étaient hautes. Mais tel un héros de Marvel, Donatien franchissait ainsi les rails avec un sentiment de toute puissance. Différentes passerelles par la suite permettraient aux élèves et aux étudiants de gravir les marches trop hautes, passant ainsi d'une voie à une autre, aiguillés par un conseiller d'orientation, les guidant sur les bons rails. La passerelle a gardé sa poésie sonnante comme une tarentelle. Plus musical que le pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire, le petit pont de bois d'Yves Duteil, le pont neuf, celui des amours et des soupirs. En revanche, le passage d'une rive à l'autre par un gazoduc ou un oléoduc laisse dans la vallée une image beaucoup plus prosaïque qu'artistique. Certes, l'aqueduc du pont du Gard ou le viaduc de Millau force l'admiration, mais c'est en lisant le journal que Donatien constate que l'utilitaire peut se réconcilier avec la poésie. Dans ce journal, on peut lire que pour préserver les écureuils et les aider à traverser la route sans danger, la commune de Changé a installé un écuroduc. Plus de cadavres roux espérons sur le goudron, mais en levant les yeux au ciel, une corde tendue entre deux arbres, cavalant à la recherche de quelques vivres pour passer l'hiver, des casse-noisettes aux panaches roux, des funambules, des acrobates agiles et prévoyants, empruntant en toute sécurité cette nouvelle passerelle.
Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquettes droits. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquettes droits. Si tu reviens par là, tu verras la rivière. J'ai refait en pierre le petit pont de bois, puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Elle suit depuis ce temps son cours imaginaire, car il ne pleut plus guère qu'une ou deux fois par an. Mais dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe un nénuphar au milieu des fougères. Mais dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe un nénuphar au milieu des fougères. Pour aller nulle part, et pourtant j'en suis fier.
Et voilà, l'agité du local s'arrête ici. Merci à Stéphanie Montebrand de la Maison des Aidants d'avoir été avec nous. Merci à Adèle pour la lecture de son poème et merci à Donatien, bien sûr. J'ai envie de vous parler de la suite. On regarde vers l'avant, précisément à 19h avec l'émission à la jeunesse Les Micros. Alors l'émission aujourd'hui vous propose de tourner votre langue cette fois dans votre bouche et de cracher. De quoi est-ce que je parle ? Eh bien, en fait, cette émission fait référence à la liberté d'expression. De quoi est-ce que l'on parle précisément ? Quand on parle de liberté d'expression, est-ce qu'une loi encadre réellement ce terme-là ? Eh bien, vous le découvrirez à 19h. L'émission sera suivie ensuite à 21h de Frères de Chaussures. C'est votre émission sur le rap français, animée par Fatshu. Vous le connaissez bien. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Ma voix me quitte, Et donc, on se retrouve demain pour une nouvelle agitée du local. Nous serons en bonne compagnie, comme chaque jour. Je n'ai qu'une chose à vous dire avec le peu de voix qui me reste. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, bah, c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.